je te remercie, mon Dieu, pour ce que tu es, pour ce que tu nous accordes chaque jour, pour cette paix, c'est vrai, cette joie, ce que nous venons de chanter. Et c'est vrai qu'il est bon, Seigneur, eh bien, de prendre du temps et de se rendre compte de tous tes bienfaits, de savoir apprécier toute la vie que tu nous as donnée, de savoir apprécier tous ces moments, Seigneur, où tu es avec nous. Et je te remercie, mon Dieu, pour cela. Et ma prière, eh bien, c'est que nous puissions, à travers le message que nous entendrons ce matin, être au clair dans notre propre cœur, dans notre intelligence, et d'avoir ce désir toujours de te suivre et de te plaire, afin d'être en harmonie dans ton plan. Merci, Seigneur. Amen.
Bonjour, frères et sœurs. Tout bon, va bien? Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez eu du courage de sortir par ce froid de canard. Enfin, pourquoi on dit toujours un froid de canard? Je ne comprends pas l'expression. Chaque fois que je mange du canard, c'est bien chaud. Voilà, bonjour à vous qui nous rejoignez sur Internet aussi. Je pense que vous avez tous écouté ma prédication de vendredi soir, donc vous allez avoir la suite aujourd'hui. Et voilà, ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est dommage, mais enfin bon, vous pouvez toujours aller l'écouter avant ou après, avec Internet, on est libre, tranquille. Et puis on n'est pas obligé de sortir par un froid de canard. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au culte, hein. Faut pas se dire, tiens, voilà, j'ai l'église Internet. Non, 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 l'église, c'est pas Internet. Ça, c'est juste la cerise par-dessus le loukoum que j'ai entendu cette expression cette semaine. C'est la cerise sur le gâteau. Hein. C'est juste un plus pour vous fortifier, mais vous devez faire partie, vous devez être dans une église. Nous sommes une église ici, une église communautaire. Et c'est nécessaire d'avoir la communion fraternelle. Hein. Alors, voilà, ce matin, je voudrais vous en dire un peu plus sur la prière exaucée, parce que j'ai prêché il y a quelque temps sur la prédestination et quelques personnes m'ont écrit, très poliment, pas toujours, mais la plupart du temps, très poliment, me demandant, mais enfin, en gros, ça voulait dire ça. Pourquoi est-ce qu'on prie? Puisque Dieu sait tout. Est-ce qu'on peut changer le cours des choses en priant? Alors, voilà, je vois qu'il faut revenir sur ces choses et les expliquer bien clairement, le pourquoi de la prière. Le pourquoi de la prière. Moi, j'aime être exaucé, pas vous? On aime être exaucé, mais l'exaucement, c'est pas... c'est quelque chose, on doit pouvoir cultiver le fait d'être exaucé dans nos prières. Bien sûr, vous croyez. Nous croyons tous, nous sommes des chrétiens, nous croyons. Alors on se dit des fois, mais pourtant je croyais, et la personne qui était avec moi croyait aussi. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas exaucé quand j'ai prié? Alors ça lance des doutes, parce que Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Oui, il a dit ça une fois, mais il a aussi dit d'autres choses, il n'a pas dit que ça. Il a dit ça à une certaine catégorie de personnes, et puis d'autres choses à d'autres catégories de personnes, et il faut voir... où est-ce que nous en sommes pour savoir comment avoir des prières exaucées? Alors, souvent, on prie parce qu'on a un problème. Hein, beaucoup de gens font ça. Ils prient simplement quand ils ont des problèmes graves à résoudre, et puis alors, ils ne se trouvent pas dans une bonne disposition d'esprit à ce moment-là. Parce qu'il y a un problème. Ce n'est peut-être pas un problème personnel, mais c'est un problème pour un enfant dans la famille ou quelqu'un qu'on aime ou ceci ou cela. Et alors, on est un petit peu effarouché, épouvanté. Alors, on est, voilà. Je reviens toujours à la plus belle prière exaucée de la Bible. Je vous ai déjà enseigné ces choses, mais je vais revenir dessus parce que c'est très important. La plus belle prière exaucée de la Bible, à mon avis, c'est la prière que Jésus a faite dans le jardin de Gethsémané. Il y avait les disciples qui priaient, et puis il y avait Jésus qui priait. Les disciples, ils avaient commencé à prier, et puis, la Bible nous dit, accablés par le poids de leur chagrin, ils se sont endormis. Je vous cite la version Parole Vivante. J'aime bien la Parole Vivante. Pourquoi est-ce que j'aime bien cette version de mon frère Alfred Kuhn? Eh bien, parce que chaque fois que je lis là-dedans, ça me fait sauter au plafond et je dis « Oh, c'est pas possible, la Bible dit pas ça. » Et je vais vite, vite voir dans ma vieille Bible second et je dis « Ah ben oui, c'est vrai, c'est, ça veut dire ça. » Mais dit avec des mots tellement différents, tellement actuels que, voilà, il a dépoussiéré, il a enlevé beaucoup de religions et ça devient quelque chose de réel. Et puis moi, ça m'électrise, pas vous? Moi, ça me fait ça. La parole vivante, j'ai toujours apporté de la main dans mon bureau, dans ma chambre. Voilà, donc... Accablés par le poids de leur chagrin, ils se sont endormis. Alors que Jésus était là, se jetant dans le combat contre quoi? Contre la mort. eux, ils dormaient. Jésus, il nous a dit qu'il luttait contre la mort. Hein, quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'est la coupe, ça, c'est une représentation. Quand on disait à quelqu'un, et maintenant, quand le comment il s'appelle ? C'est pas le pharaon, hein, mince, c'est l'empereur romain. Quand l'empereur romain envoyait une lettre ou des messagers à quelqu'un pour lui dire tu dois boire la coupe, ça voulait dire tu dois mourir maintenant. Il devait se suicider. Hein. Et la coupe, c'était signal, ça voulait dire la mort. Donc, Jésus luttait contre la mort et il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Alors, beaucoup de chrétiens s'imaginent que Jésus avait peur d'aller sur la croix. Non, il était saisi d'angoisse, mais pas parce qu'il devait mourir sur la croix. Il était saisi d'angoisse parce que là, dans le jardin, alors qu'il était venu prier, se remettre au Père, sachant qu'il allait être livré, la mort l'attendait là dans le jardin pour le tuer là dans le jardin. Il ne voulait pas mourir là. Si Jésus était mort là, ça aurait été la catastrophe. Jésus était venu pour faire la volonté du Père. Il connaissait la volonté du Père. Mais il n'était pas seul à connaître la volonté du Père. La mort connaissait aussi la volonté du Père. Alors elle s'est présentée en avance. Jésus devait mourir sur la croix, mais la mort, sachant cela, elle est venue à ce moment-là où Jésus était au plus profond de son angoisse, sachant qu'il allait mourir bientôt, que ça allait être terrible. La mort, sachant que si Jésus allait mourir sur la croix, elle était perdue, parce que la mort, c'est une ennemie de Dieu, c'est la dernière ennemie qui va être vaincue, et la mort savait très bien que si Jésus allait sur la croix, elle-même, elle était perdue. C'est une personne, la mort. Connaissait le plan de Dieu, la mort. La mort était au courant du plan de Dieu. Alors, la mort a essayé de contrecarrer le plan de Dieu en faisant mourir Jésus dans le jardin de Gethsémané. Elle a essayé, mais elle n'a pas pu. Pourquoi, mes frères et sœurs ? Parce que rien, ni personne, ni la hauteur, ni la largeur, ni la longueur, ni la profondeur, ni le passé, ni le présent, ni l'avenir, ni les esprits, ni les anges, ni personne, rien ne peut faire changer ce que Dieu a décidé de faire. Rien. Dieu a décidé une chose à l'avance et rien ne peut empêcher que cela n'arrive. Dieu veille sur ce qu'il a dit, sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit, il avait été décidé que Jésus mourrait sur la croix. C'est là qu'il devait mourir, pas au jardin de Gethsémané. La mort a essayé, mais elle n'a pas réussi. Le Père a permis ce combat. Pourquoi ? Pour en tirer gloire. Et aussi pour notre instruction, mes frères et sœurs. Jésus priait pour que la mort ne réussisse pas son œuvre là, dans ce jardin. Mais il était saisi par l'angoisse. Il se sentait mal. Il avait de moins en moins de force. Il se donnait tellement qu'il saignait même du sang. Et la Bible nous dit, il cria, « Oh Père !» Je vais paraphraser là. « Je vais lâcher. Je sens que je lâche prise. J'ai plus de force. Je n'ai plus la force de volonté. Je n'y arrive plus. Éloigne de moi cette mort. » La mort qui est là pour venir me prendre, éloigne-la donc de ce jardin, éloigne-la de moi. Non pas ce que je veux, je ne peux même plus vouloir moi-même, mais fais ce que tu veux. Oh Dieu, tu veux que je meure sur la croix, ne permets pas à la mort de venir me prendre maintenant ici comme un anonyme, mourant dans une forêt en pleine nuit. Mon Dieu, que ta volonté soit faite. Je me sens faible, je n'y arrive plus tout seul. Alors Dieu lui envoya un ange pour le fortifier, n'est-ce pas écrit ? Il envoya un ange afin que Jésus ait de nouvelles forces. Alors il lutta encore contre la mort, se jetant dans la prière avec une foi plus renouvelée, une prière plus pressante. Il se jette dans le combat de toutes ses forces. Sa sueur coulait et tombait à terre comme des gouttes de sang. On n'a jamais prié jusque-là, hein ? Ben pas moi du moins. Ce combat a été voulu par le Père. Et Jésus remporta la victoire. Sa prière a été exaucée là, au jardin. Quelle prière ? Père, éloigne de moi cette coupe. Cette prière a été exaucée. Ne venez plus jamais me raconter que Jésus avait peur d'aller mourir sur la croix et qu'il a demandé à Dieu, Seigneur, si ça pouvait être fait autrement. Non, 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 non. Il était venu pour cette heure. Il voulait, il était consacré entièrement. Il voulait faire la volonté du Père. Et il a été exaucé quand il a prié, Père, éloigne cette coupe de moi. Il a été exaucé. Michel, mais qu'est-ce que tu viens nous raconter? Je ne viens pas vous raconter des choses. Je suis envoyé de Dieu pour vous expliquer les choses de la parole de Dieu. Paul nous confirme ce que je dis là dans Hébreux chapitre 5, verset 5. Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Amen. Alors certains disent, oui, il est exaucé parce qu'il est ressuscité. Mais c'était prévu qu'il ressuscite. Il le savait qu'il allait ressusciter. Il ne faut pas tordre les Écritures. Il a été exaucé parce qu'il n'est pas mort là, dans ce jardin, et il a pu aller faire la volonté du Père qui était qu'il aille mourir sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés. Et que nous soyons purifiés, que nous soyons délivrés, et qu'enfin la mort elle-même soit vaincue. Dieu au ciel voulait que Jésus meure en croix. Et Jésus sur la terre le savait, il était venu pour ça. Mais au jardin, alors que les forces venaient à lui manquer, il cria avec larmes, « Père, que ta volonté soit faite, moi je ne peux plus, je suis fatigué. » Et des fois, nous sommes fatigués dans nos prières, nous ne pouvons plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Père, que ta volonté soit faite! Amen. Et là, on est en plein accord avec Dieu. Et alors, un ange est venu pour lui donner des forces nouvelles. Et il a remporté sa victoire. La mort est partie de ce jardin, honteuse comme une poule, comme un renard qu'une poule aurait pris. Jésus a été exaucé là. La mort qui voulait le prendre là a dû renoncer, car rien ni personne ne peut faire autre chose que la volonté de Dieu. C'est Amen et c'est Amen. Au jardin, il y avait deux sortes d'êtres humains. Parce que nous avons deux possibilités d'action. Il me dira, ah ben, tu vois qu'on est libre. Non, on n'est pas libre. On est l'un ou on est l'autre. À un moment, on est un et après, on est l'autre. Et si vous êtes un des disciples qui vous endormez dans le chagrin et la tristesse, eh bien, il y a une bonne nouvelle pour vous qui vous est donnée aujourd'hui afin que vous puissiez devenir Jésus qui se lance dans le combat et qui est exaucé. Jésus se battait dans la prière et les disciples ils se laissèrent couler dans le sommeil, accablés sous le poids de la tristesse. Et Dieu a voulu que ça arrive pour notre instruction. Ça doit nous servir à quelque chose. On ne doit pas simplement se dire, « Oh, j'étais vraiment charnel, ces disciples. » Moi, j'aurais été là, j'aurais prié jusqu'au bout avec Jésus. Tiens. Ces malheurs leur sont arrivés afin de nous servir d'instruction. Ces malheurs leur sont arrivés pour illustrer la manière dont Dieu agit. Ces malheurs ont été consignés par écrit, leurs malheurs ont été consignés par écrit, pour que nous entrions en connaissance avec l'idée de Dieu. Pour que nous puissions tirer une instruction, nous qui vivons, dans la période finale de l'histoire, vers laquelle convergent les richesses de tous les temps. Ça, c'est un verset de la Bible, c'est 1 Corinthiens 10, 11. C'est pour ça que ça a été écrit. C'est pour que nous, qui vivons maintenant dans la période finale de l'histoire, vers laquelle convergent toutes les richesses des temps, de tous les temps, nous puissions devenir tels qu'il est réellement dans notre façon de prier, afin d'être exaucé. Vous ne pouvez pas y échapper, mes frères et sœurs. Vous devez connaître comment Dieu agit. Si vous ne connaissez pas comment Dieu agit, vous serez toujours plein d'incertitudes dans vos prières et malheureux, finalement. Je me souviens un jour, j'étais en Auvergne avec mes beaux-parents et mon épouse. On était en train de faire le marché à, je ne sais plus quel, à Commentry, je crois. C'est à Commentry. Et là, on a rencontré un gitan qui vendait je ne sais plus quoi sur le marché, et puis on s'est mis à parler, c'est un pasteur, je lui racontais les miracles que Jésus fait dans mon ministère et tout ça, et puis lui, il me dit tout triste, il me dit, moi, je ne comprends pas pourquoi certains sont guéris et puis d'autres pas, et est-ce que c'est parce qu'ils manquent de foi? Je dis, non frère, surtout pas. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent aux malades qui viennent à l'imposition des mains et qui ne sont pas guéris, leur disent, c'est parce que vous avez manqué de foi, mais c'est abominable de dire une chose pareille. C'est prendre un raccourci honteux pour quelqu'un qui fait profession de servir Dieu. Je dis non, mon frère. Nous sommes appelés à prêcher et à prier pour les malades. Dieu fait ce qu'il veut avec. C'est un stade dans la façon d'agir avec Dieu. Ce frère, il voyait les prières inexaucées comme une défaite. Mais ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas une défaite. Dieu fait ce qu'il veut. Regardez par exemple. Pensez à ce paralytique, je vous parlais de ça vendredi. Ce paralytique à qui Jésus dit « Prends ton lit et va dans ta maison. » Ou dans l'autre version « Prends ton lit et marche. » Est-ce qu'il avait foi en Jésus? Non. Non, 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 monsieur. Il n'avait pas foi en Jésus. Un moment après, il rencontre des gens qui lui disent « Mais comment ça se fait, tu portes ta natte et c'est le jour du sabbat, tu n'as pas le droit. » Et cet homme dit « Ben, celui qui m'a dit « Prends ton lit et marche », il m'a dit de prendre mon lit. Hein. » Oui, mais c'est qui t'a dit ça? Je ne sais pas. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne pouvait pas avoir la foi en Jésus puisqu'il ne connaissait pas qui était Jésus. Vous comprenez? Jésus fait ce qu'il veut, comme il veut, il n'y a pas de doctrine. Bien sûr qu'il y en a besoin de doctrine pour étayer, Dieu va bien au-delà de tout ça. Voulez-vous savoir ce qui est important à savoir? Ce qui est important à savoir, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Jésus s'est jeté dans le combat contre la mort au jardin parce qu'il savait qu'elle n'avait pas le droit de venir le chercher là, à cette heure-là. Elle était en avance, elle n'avait pas le droit. Vendredi, je vous lisais un témoignage du prophète Branham qui priait sur Révélation. Écoutez, si vous n'avez pas écouté, allez écouter ça. Voilà pourquoi il était exaucé, parce qu'il priait sur Révélation. Il avait une vision, il voyait la chose et après il priait. Et il lui est arrivé de voir des choses très précises et s'il devançait, eh bien ça ne marchait pas. Il fallait attendre que la vision soit telle qu'il l'avait vue. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi ça lui est arrivé ça? Pour notre instruction, mes frères et sœurs. Il ne priait pas au hasard. Vous voyez, Jésus veut que nous mûrissions spirituellement. Aujourd'hui, on n'en est peut-être plus à s'endormir de lassitude dans la prière. Peut-être vous avez dépassé ça, mais vous avez encore des étapes à atteindre jusqu'à ce que vous soyez, comme Jésus pouvait le dire, « Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. » Amen. Amen. Il nous faut devenir des adultes. Jusqu'à nos jours, l'Église de Jésus-Christ a beaucoup perdu de sa spiritualité. Ça m'embête de dire l'Église de Jésus-Christ, parce que quand je dis l'Église de Jésus-Christ, dans ma tête, ça fait Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ils ont vraiment chopé le bon mot. C'est nous les saints des derniers jours. Amen. L'Église de Jésus-Christ a beaucoup perdu de sa spiritualité. Depuis la réforme, les choses reviennent, Dieu restaure progressivement des vérités que Dieu se met à rétablir en elle, notre brochure miracle, une démonstration que Dieu est en train de restaurer les choses. Vous pouvez la télécharger, la brochure miracle, c'est 25 pages que vous pouvez télécharger sur Révélation Bible, c'est des témoignages de guérison, c'est des explications au sujet de la guérison divine et du salut, vous pouvez télécharger ça. Dieu est en train de rétablir des choses dans son Église. Et de nos jours, on en est à la restauration des dons du Saint-Esprit. C'est une bonne chose. Mais il nous faut plus. Il nous faut plus. Il nous faut une communion avec Dieu beaucoup plus intense. Et quand je dis une communion avec Dieu, ça ne veut pas dire d'avoir les mains levées en l'air, les yeux fermés avec la larme à l'œil, et puis parler de... Je sais pas, parler en langue et puis être là avec un sourire béat. Et je parle de la communion avec la personne de Dieu, de quelque chose de sacré. Je parle pas d'émotions qu'on peut voir dans certaines réunions avec des grandes musiques magnifiques, planantes et tout. Je vous parle d'entrer en intimité avec Dieu pour être mis au courant de sa volonté. C'est de ça dont je vous parle. Il y a une volonté qu'on peut connaître facilement déjà, c'est celle qui est exprimée dans les pages de la Bible, mais la Bible ne vous dit pas tout ce que vous devez faire dans tous les cas précis. Alors il y a la méditation, alors il y a la contemplation, alors nous avons la foi pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, avec un immense respect devant lui, avec des silences dans sa présence, des silences qui lui permettent de nous parler, parce que il y en a. Quand il commence, « Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te loue, je te rends grâce, je te bénis. » Et on se dit, là, on a pour 25 minutes. Et oui, il y en a pour, des fois pour 25 minutes. C'est du blablabla, blablabla, mais ils n'écoutent jamais Dieu. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Il faut écouter Dieu aussi. Et puis aussi, il y a la foi que Dieu ne va pas forcément vous parler en direct. Vous pouvez avoir la foi que Dieu va vous envoyer un ange pour vous parler. Ah, là, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore arrivés là. Pour vous donner des indications sur la marche à suivre. Dieu se sert des anges pour ça. Regardez la Bible. Dieu va se servir des anges, de certains anges, pour ouvrir des portes qui retiennent vos pensées captives dans des conceptions erronées. Dieu va vous envoyer des anges. Recevez-les, ne les chassez pas au nom de Jésus, de grâce, de grâce. Un ange peut venir pour vous révéler des choses et pour vous relever si vous avez tendance à l'adorer, parce qu'il va vous dire, non, non, c'est arrivé à Jean, deux fois dans l'Apocalypse, non, 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 on n'adore que Dieu, on n'adore pas les anges. Mais les gens ont tellement peur, tombent en adoration dans les anges, qu'ils ne veulent plus d'anges dans leur vie, ils veulent que le Saint-Esprit. Alors vous les entendez parler de Jésus, Dieu m'a dit, jour une soeur qui disait, oh, je suis allé sur le marché, Dieu m'a dit, tourne à gauche, maintenant tourne à droite, voilà, c'est là qu'il y a les meilleurs melons. Excusez-moi, je doute. Pardon, je sais, je suis un Thomas. Voilà. Je doute. Mais mes frères et sœurs, comprendre Dieu, ce n'est pas le comprendre seulement avec la tête. Même notre cœur n'y suffirait pas pour comprendre Dieu. Alors, ne vous servez pas de la Bible comme d'un livre de recettes spirituelles. Le Saint-Esprit veut, par elle, par la Bible, vous indiquer la voie que vous devez suivre, la voie par excellence, celle de l'amour. Alors, venez vers Jésus. Venez vers Jésus comme un disciple. Et puis, vous vous asseyez. Et puis, il vous dira comment il a tout créé pour un but. Il vous dira comment le diable fait une œuvre qui le trompe. Il vous dira. Alors écoutez-le vous dire que rien ne l'étonne. Il vous dira qu'il vous a fait de toutes pièces. Des fois, on entend des pères ou des mères qui disent « Ah, je te connais comme si je t'avais fait. » Mais même nous, on ne connaît pas même nos propres enfants que nous avons faits. Mais lui nous connaît parfaitement. Il vous a fait de toutes pièces, il vous le dira, il vous le rappellera. Il vous rappellera aussi que vous avez un rôle à jouer et que le rôle que vous jouez, ben, c'est celui que vous devez jouer, puis c'est tout. Il vous expliquera qu'il avait besoin de vos défauts. Il avait besoin de vos mauvais penchants afin de pouvoir manifester sa compassion à votre égard. Dieu est compatissant de toute éternité, mais il n'avait jamais eu l'occasion de manifester cette compassion. Il vous a créé avec des défauts afin de pouvoir avoir compassion. Il vous expliquera que sans vos manques, vous ne seriez pas la personne que vous êtes. Il vous expliquera que vos défauts lui sont utiles, car ils lui permettent de vous conduire dans la sainteté. Que vos souffrances actuelles, elles ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Et il vous dira aussi que rien ne lui échappe, rien ne le surprend. Il vous dira aussi que sans vous et sans tous ses enfants de par le monde, il n'aurait jamais pu être un sauveur. Il était sauveur dans son âme, Dieu, dans son âme. Il était sauveur. Mais il n'est sauveur que parce qu'il y a des perdus. S'il n'y avait pas de perdus, il ne pourrait pas manifester cette qualité merveilleuse d'être un sauveur. Il vous a connu à l'avance et vous le dira. Et il vous dira aussi que son plan était si parfait que vous ne pouviez pas le rater. Il avait un rendez-vous avec vous et il vous a trouvé et vous l'avez retrouvé. Écoutez-le comment il raconte les choses, comment il a créé les cieux et la terre et qu'à ses yeux tout est bien. Que la terre entière raconte la gloire de Dieu. Il va vous rappeler que vous avez une tendance à juger ceci, c'est bien, cela, c'est pas bien. Mais il va aussi vous dire que c'est lui qui vous a créé comme ça, afin que vous puissiez apprendre comment vous débarrasser de cette tendance au jugement. Mais pourquoi t'as fait ça, Seigneur? Eh bien, il te dira, afin d'en tirer gloire. Afin d'en tirer gloire. Dieu veut tirer gloire de vos progrès. Feriez-vous des progrès si vous aviez été créé sans faille? Alors écoutez-le quand il vous explique que la chute d'Adam et Ève était programmée. Ne soyez pas une vierge effarouchée qui se bouche les oreilles. Ah non, je ne veux pas entendre ça, c'est une hérésie. Ne faites pas la vierge effarouchée. Écoutez-le vous dire qu'avant d'avoir créé Adam et Ève, il n'était même pas Dieu. Ah bon? Mais non, parce que le mot « Dieu » signifie « objet d'adoration ». Il n'y avait personne qui l'adorait. Il a fallu qu'il crée pour pouvoir avoir des êtres ici-bas sur terre qui montent vers lui pour l'adorer. Écoutez-le et vous apprendrez qu'il a créé, il vous a créé uniquement pour son bon plaisir, qu'il vous a créé pour lui-même, et puis que la chute, c'était un mal nécessaire. Car avant la chute, il n'était pas un Dieu sauveur. Parce qu'il n'y avait rien à sauver. Et il lui manquait la possibilité d'exprimer son amour qui pardonne. Il était un Dieu qui avait ce pouvoir de pardonner, mais personne n'a pardonné. Il vous a créé afin que vous chutiez, qu'il puisse manifester sa gloire en vous pardonnant. Là où le péché abonde, la grâce surabonde et Dieu en tire gloire. Amen. Laissez-le vous parler. Laissez Dieu faire et il va vous aider à vous souvenir de votre passé éternel. De ces jours où il a créé les cieux et la terre, et de ces jours où vous étiez là, tous les fils de Dieu réunis, présents, le louant en le voyant faire et se réjouissant de pouvoir enfin venir naître sur cette planète. Des dates ont été fixées entre Dieu et vous. Vous avez discuté et vous avez fixé des dates pour venir sur cette terre. Pour venir sur cette terre, pourquoi? Pour y porter le nom de l'Éternel en haute estime et en adoration devant toutes les puissances, même les puissances ennemies. Souvenez-vous de ce jour où finalement votre esprit a quitté le ciel pour venir habiter ce petit corps qui avait été tissé dans le ventre de votre maman. Enfin, le jour était arrivé. Et c'est en plein accord avec Dieu et en connaissance de cause que votre esprit éternel s'est glissé dans ce petit corps maladroit de nourrisson. J'ai devant mes yeux mon petit Timothy qui est né il y a à peu près 9 mois. Qu'est-ce qui peut être maladroit? À 9 mois, un cheval, il court déjà depuis longtemps. Lui, il commence à marcher à 4 pattes depuis quelques semaines. Quelques mois, il marche à 4 pattes. Ah, moi j'ai vu ça depuis quelques semaines seulement. 8. Il va vous dire que votre esprit éternel s'est glissé dans ce petit corps volontairement. C'est votre esprit qui l'a voulu avec lui. Et puis vous en avez pleuré ce jour-là. Et puis les jours ont passé, le temps a passé, puis vous avez oublié votre passé éternel. Petit à petit, vous n'avez plus la visite des anges. Les enfants ont la visite des anges. C'est pourquoi on les voit sourire de temps en temps, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils voient encore les anges au début. Mais petit à petit, ça s'efface. Et puis quelque chose d'autre arrive et votre âme se met à reconnaître. Ah, mais ça, c'est quelqu'un qui m'aime. Et ça, c'est votre maman. Ah, ça, c'est aussi quelqu'un qui m'aime différemment. C'est le papa. Et puis, ah, là, c'est le papy. Là, c'est la mamie. Et petit à petit, ils vous reconnaissent. Et quand ils vous voient arriver, ils ne sourient plus à des anges. Ils sourient à vous. Et puis, votre corps a grandi, et puis vous avez appris à marcher, à parler, mais vous ne voyez plus les anges. Et petit à petit, ben, vous avez été occupé par tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous apprenez autour de vous, et puis vous avez oublié votre passé éternel, vous avez oublié l'innocence de votre esprit, et puis vous vous êtes rendu coupable. Coupable de certains trucs envers vous-même, coupable de certaines autres choses envers les autres. Et puis un jour, vous avez appris que vous êtes coupable devant Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est venu vous le dire, ou un livre qui est venu vous le dire, une Bible peut-être, que vous avez trouvé ou qu'on vous a offert. Quelqu'un vous a parlé de la part de Dieu et vous avez reconnu la voix de Dieu. Ça veut bien dire que vous la connaissiez avant. On ne peut pas reconnaître une voix qu'on ne connaissait pas. Et alors là, votre esprit, ayant reconnu le bon berger, votre esprit a repris vie. Oui, Dieu est vivant. Oui, il est amour. Oui, je suis son enfant. Oui, j'étais perdu. Il m'a perdu sur cette terre avec mon accord. Et maintenant, il m'a retrouvé. J'étais sa brebis, perdu, et il m'a retrouvé. J'étais sa brebis à lui avant, et il m'a perdu. Et puis maintenant, il m'a retrouvé. Il s'est chargé de moi. Il m'a mis sur ses épaules. Et il m'a emmené dans sa bergerie, dans son église. Et là, on prend soin de moi. Il y a même ce bizarre prédicateur, Janton, qui prend soin de moi. Et ce matin, je dois dire quand même, ça me trouble un peu ce qu'il dit, mais ça me fait quand même du bien au fond de moi. Je sens bien que c'est vrai. Votre esprit reprend alors les commandes au nom de Jésus. Et puis, ce n'est pas toujours facile. Des fois, vous faites des faux pas. Mais petit à petit, vous faites des progrès. Et puis, vous disciplinez votre corps. Et puis, vous disciplinez vos pensées. Et puis, ça prend du temps. Mais vous étudiez la Bible. Et vous renouvelez votre intelligence par la connaissance que vous pouvez tirer de la Bible et de vos diverses expériences. Et puis, vous apprenez par les prédications. Et puis, vous entendez des choses et vous voyez des choses autour de vous, et puis maintenant vous en arrivez au point où vous dites, maintenant je sais, oui, mon âme a été vraiment sauvée. Mon âme a été sauvée, cette création, mon âme a été sauvée. Je sais, mon corps mourra, ou alors je serai enlevé. Mais mon corps mourra peut-être, hein, la plupart des gens c'est comme ça que ça se passe. Mon corps mourra et retournera à la poussière d'où il est venu, et puis mon esprit retournera là où il était, Ecclésiaste. Et puis il y aura la résurrection des corps. À ce moment-là, mon âme, cette création merveilleuse, est sauvée, entrera en possession de son héritage et mon corps sera enfin racheté, d'après Romains 8, transformé, immortel, et là, sur une nouvelle terre. Ah, ça va être formidable. Le mal n'existera plus. Ça sera terminé. Ça sera terminé. Et pourquoi ça sera terminé? Je vais vous le dire. Pourquoi ça sera terminé? Parce qu'ici-bas sur la terre, Dieu est venu pour vaincre le péché, la mort, tout cela, les démons, au nom, il est venu au nom de son Père pour mourir sur une croix infâme. Mais pas seulement ça. Parce que nous autres, nous avons vaincu grâce au sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Nous disons la même chose qu'il dit, nous faisons la même chose qu'il fait. Et nous l'avons vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le mal n'existera plus. Parce que Dieu et nous, nous l'aurons vaincu pour toujours. Voilà pourquoi vous êtes là, sur ce bout de planète qui tremble. Voilà pourquoi vous êtes là. Vous êtes l'expression de Dieu dans la chair. Il vit en vous. Vous êtes l'expression du bien, luttant contre le mal. Vous êtes là avec une parfaite assurance. Jésus-Christ en moi, je suis plus que vaincu. Alors Dieu sait tout à l'avance. Et nos prières ne sont pas une comédie. Nos prières, elles sont l'expression parlée de la volonté de Dieu qu'il révèle à ses enfants. Voilà pourquoi vous devez aller chercher dans la présence de Dieu quelle est sa volonté. Mais si vous n'allez pas d'abord chercher dans les Écritures quelle est sa volonté, Dieu ne vous dira rien. Il faut d'abord que vous allez chercher dans les Écritures quelle est la volonté de Dieu. Et puis, comme Dieu vous verra fidèle là-dedans, eh bien, petit à petit, il vous donnera cet esprit de révélation pour en connaître davantage. Les prières sont dites ici-bas. Elles remplissent le diable de confusion. Elles glorifient Dieu. Amen. Voilà pourquoi on prie. Voilà pourquoi Jésus a prié dans le jardin de Gethsémané. Ce n'était pas une comédie. Il savait que la mort allait quitter le jardin de Gethsémané. Mais le combat, il était bien réel. Et la prière voulue par Dieu était bien réelle. Et il l'a accomplie. Jésus aurait très bien pu nous pardonner sans tout ce spectacle de la croix. Vous allez me dire, Michel, spectacle! L'apôtre Paul lui-même dit qu'il a offert un spectacle, toutes ses puissances, sur la croix en mourant d'une façon affreuse. Tout ça, ce n'est pas de la comédie, c'est un plan que Dieu a fait, dans lequel nous sommes. Et nous y entrons. Alors certains ont des problèmes physiques, d'autres ont des problèmes psychiques, d'autres ont des... Vous avez toutes sortes de trucs, de choses, de machins. Mais c'est infini, si on veut commencer à chercher. Mais tous, nous avons une force plus grande que les problèmes que nous avons. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui soit au-delà de vos forces. Dieu a tout bien équilibré à l'avance afin que vous puissiez faire face à toutes ces choses et que vous puissiez en sortir en glorifiant Dieu. Que vous en sortiez par un miracle ou vous en sortiez par la mort, mais que vous en sortiez en glorifiant son nom. Amen. C'est ça que Dieu veut. Et j'espère que c'est ce que vous voulez aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus veut bénir ces choses, et en particulier aussi les gens qui les ont entendues, afin qu'il n'y ait pas de confusion, mais qu'ils comprennent bien ce que ton esprit veut dire ce matin. Père, dans le nom de Jésus, je te le demande, et je te remercie d'avance parce que tu tiens toutes choses sous ton contrôle, et tu permettras que ceux qui doivent comprendre, qui ont des oreilles pour cela et un cœur pour cela, puissent bien comprendre. Le comprendre non seulement pour le vivre, mais le comprendre aussi pour le dire aux autres. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.